Voilà, merci pour l'invitation aussi, de pouvoir me retrouver parmi vous ce matin. Je dois vous saluer aussi de la part de l'église de Belfort. Il ne faut pas que j'oublie, donc je le fais tout de suite. En tout cas, je suis heureux d'être là avec mon épouse parmi vous pour partager cette parole extraordinaire, parole de Dieu qui est venue justement, on va bientôt le fêter à Noël, qui est venue parmi nous, s'incarner. Jésus n'est pas apparu à Noël, hein, il s'est incarné, il existe depuis toute éternité. Notre sœur nous a lu le passage dans Jean 1 ce matin. Alors moi j'aimerais parler avec vous ce matin des dépouillements que produisent Noël. Alors on va aller dans un texte de Matthieu 2, 1 à 12, à lire ce texte, peut-être que vous avez relu hein, dans cette période. Voilà ce que ce texte nous dit. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après l'avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Voilà un passage peut-être que vous connaissez bien. Mais il est bon de nous rappeler la parole de Dieu, elle est vivante. Et chaque évangile nous présente Jésus sous un aspect différent. L'évangile de Marc, il nous le présente comme serviteur. C'est pour ça que, à maintes reprises, quand vous lisez Marc, vous avez le petit mot « aussitôt ». Aussitôt. Souvent, ça revient. Luc nous le présente comme le Fils de l'homme. Jean, comme le Fils de Dieu. Et Matthieu, lui, nous présente Jésus comme le roi. Où est le roi qui vient de naître ? Et Matthieu, si vous lisez l'évangile de Matthieu tout au début, ça commence par une généalogie, plein de noms. Et le premier verset nous rappelle que la venue de Jésus, c'est tout d'abord l'accomplissement des prophéties et la promesse faite à Abraham. Cette généalogie, elle nous rappelle aussi que Jésus avait été promis à Abraham et qu'il est héritier du trône de David. Dans cette liste de noms, si vous relisez à la maison cette généalogie, dans cette liste de noms, on retrouve des noms tels que Akaz, Manassé, Amon, Rahab, etc. Comme si Dieu voulait nous dire ce matin, peu importe le rang ou la place que nous pouvons avoir dans la société, dans cette liste, il y a des rois, il y a des patriarches, il y a aussi Rahab, une femme peu recommandable. Avant de révéler le Sauveur, Dieu nous dit que chacun et chacune a besoin du même salut et du même évangile. Il n'y a pas que des parfaits. Hein. Jésus a dit, je suis venu non pour les bien portants, mais pour les malades. Pour sauver ceux qui étaient perdus. On va relire Hébreux 1, versets 1 et 2, que notre sœur nous a lu tout à l'heure. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. C'est important parce que si vous arrivez au prophète Malachi, le dernier prophète de l'Ancien Testament, Dieu s'est tu pendant plus de 400 ans avant qu'il parle à nouveau à travers Jean-Baptiste et bien sûr par Jésus-Christ. À Noël, on célèbre l'anniversaire de la venue de Jésus-Christ, même si ce n'est pas le 25 décembre, on le sait très bien. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est qu'il soit venu. Normalement, quand on fête un anniversaire, on se retrouve avec celui qui est concerné. Noël, malheureusement, c'est fréquemment devenu synonyme de festivité, de réjouissance et de cadeaux. Noël, ce doit être également une occasion de réflexion. Et je pense que pour nous, c'est important. Et de remise en question. C'est important qu'on ne se rappelle pas juste que Jésus est venu sans que ça nous donne de réfléchir. Est-ce que je n'aurais pas oublié l'invité principal dans cette période ? Bonne question, n'est-ce pas ? Noël est avant tout la fête des dépouillements. Et donc le premier point que je vais voir avec vous, c'est que le ciel se dépouille. Le ciel se vide de la présence de celui qui en est le joyau principal. On l'a lu tout à l'heure dans Jean 1. L'événement à ce niveau céleste, il est unique dans l'histoire. Jésus existe, il est auprès du Père depuis toute éternité. Et il va décider de quitter ce ciel de gloire, de quitter un endroit où le péché n'existe pas pour venir parmi les hommes. C'est une dimension qui est inconcevable à notre esprit humain. On le sait, mais on arrive difficilement à le concevoir. Le Fils éternel, unique et bien-aimé du Père, quitte la gloire, quitte les anges pour rester 9 mois dans le ventre de Marie et naître comme n'importe quel bébé. Il s'abaisse. Il ne peut pas plus venir naître comme tout enfant. Jésus va s'identifier à l'homme de la naissance jusqu'à sa mort. L'objectif est de vivre dans nos conditions et reconquérir le terrain que l'ennemi a pris dans le jardin d'Éden. Il va venir reconquérir ce terrain-là. Il va venir reconquérir nos cœurs. Deuxième point, Marie se dépouille. Elle renonce à sa virginité, à sa réputation, à l'estime de son fiancé Joseph. Imaginez un tout petit peu. Mettez-vous dans la position de Marie. Ce qui lui arrive est incroyable. Et pourtant, elle dit « Qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis la servante du Seigneur. » Qui la croira quand elle racontera comment elle est devenue enceinte? Qui? Même pas son fiancé. Et les textes nous disent qu'il pensait à rompre secrètement avec elle. J'aime la réaction de Marie. Qu'il me soit fait selon ta parole. La soumission et l'obéissance à la parole de Dieu est essentielle dans notre vie chrétienne. Est-ce que nous avons cette réaction de Marie? Qu'il me soit fait selon ta parole. Pas selon ce que moi je conçois, selon ce que moi j'imagine, selon ce que moi je prévois. Nous devons le dire avec honnêteté. Si souvent Dieu nous parle, et nous faisons le contraire dans nos vies. Nous agissons en sens inverse. Luc 6, 46, Jésus dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Rien que le fait, ce matin, de prononcer « Seigneur », ça veut dire que je me soumets à lui. C'est important, hein, de réfléchir. Si vite fait, on a tendance à dire « Seigneur ». Seigneur, Seigneur. Oui, mais pourquoi ne faites-vous pas ce que je dis? Et Marie va complètement obéir à la parole de Dieu. Ne sommes-nous pas si souvent enclins à désobéir parce que ça nous arrange? Et pourtant, je dis facilement Seigneur dans ma vie. Marie aurait pu dire « Mon projet tombe à l'eau, enceinte alors que je ne suis pas encore mariée, inconcevable !» Inconcevable. Marie avait tout envisagé, mais certainement pas ça. Toi aussi ce matin, tu as peut-être envisagé des projets qui tout à coup pourront se voir chamboulés par la parole de Dieu, par une situation qui va tout changer dans ta vie, une maladie qui arrive, une épreuve, sans qu'on les cherche, parce que je ne pense pas que vous les cherchez, les épreuves. Et ce n'est pas la peine, elles viennent toutes seules. Toutes seules. Sommes-nous prêts à renoncer à nos plans pour rentrer dans ce que nous propose Jésus? Marie, elle n'a pas hésité, elle a dit, mais qu'il me soit fait selon ta parole. Je ne comprends pas ce qui va m'arriver. J'aperçois les contraintes, mais je me soumets à ta parole. Parce que c'est le mieux pour moi. Mais nous, nous pensons des fois que Jésus a raté un épisode dans nos vies. Il a raté ça, il a pas dû être là à ce moment-là. Si, il est là. Il contrôle tout. Ça fait du bien de nous le rappeler ce matin. Ça coûte parfois, comme pour Marie, qui accepte de recevoir Jésus dans son corps. La venue de Jésus provoque des changements dans nos vies. Sommes-nous prêts à nous laisser dépouiller du provisoire pour gagner de l'essentiel? Sommes-nous prêts? Ça coûte, comme pour Marie. Troisième point, Marie et Joseph sont dépouillés. Ils quittent Nazareth pour aller à Bethléem. Ils n'ont ni le temps, ni le loisir de s'installer chez eux, comme chaque couple en a le désir et le droit. De Bethléem, ils devront fuir en Égypte. Soudainement, une certaine nuit. Ce dépouillement de leur légitime et relatif confort n'est pas un accident dû à l'édit de César Auguste ou à la colère d'Hérode. Pas du tout. C'est bien plutôt à cause de la naissance du Christ que, sans le savoir, César a ordonné le recensement. Dieu contrôle tout, ce que vous le croyez. Il a le cœur des rois dans sa main. Afin que s'accomplissent, on l'a lu tout à l'heure, les prophéties. Il ne faut pas intervertir les causes et les effets. C'est le plan de Dieu qui s'accomplit, pas celui de l'ennemi. C'est tellement important de ne pas laisser dans nos vies l'ennemi prendre du terrain qu'il ne lui appartient pas. Question, sommes-nous prêts dans nos vies à nous laisser dépouiller pour que la venue de Jésus, le règne de Jésus, puisse se faire dans nos cœurs, dans mon cœur ce matin? Est-ce que je suis prêt à me laisser dépouiller? C'est tout un travail, hein. Ça ne se fera pas en un claquement de doigts, hein. C'est toute notre vie. Pendant toute notre vie, je vais devoir apprendre à me dépouiller. Parce que le plus grand danger dans ma vie, c'est moi-même. Et c'est pour ça que j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin qu'il vienne habiter de plus en plus, être présent dans ma propre vie. N'oublions pas que Jésus cherche des disciples et pas seulement des sympathisants. C'est pas la même chose, hein ? C'est pas du tout pareil. Jésus cherche des disciples. Peut-être nous faudra-t-il quitter certaines choses à cause de Christ. Faire des choix qui coûtent. Romains 13, verset 12 nous dit « La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Dépouillons-nous donc. Quatrième point, Hérode est dépouillé. Il se voit dépossédé de son trône. Les mages venus à Jérusalem ont dit « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Brusquement, Hérode se trouble. On l'a lu dans le texte. Tout chancelle pour lui, puis il se fâche et élabore un plan diabolique. Dieu aura devancé les événements et averti Joseph et Marie de se réfugier en Égypte. Non pas que l'enfant qui vient de naître vise spécialement le trône d'Hérode, pas du tout. Pas plus qu'un autre d'ailleurs. Jésus dira plus tard, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Il n'est pas de ce monde, mon royaume. Et le nôtre non plus. J'espère que vous le réalisez. Pourtant, d'un autre point de vue, celui qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs veut tous les trônes dans ma vie. C'est tellement important. Parce qu'en réalité, Hérode y règne en violation de la loi du Deutéronome 17, versets 14 à 16. Je vais vous lire ce passage. « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, que tu auras établi ta demeure et que tu diras « Je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent, tu mettras sur toi le roi que choisira l'Éternel ton Dieu. » Tu ne prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. » Un texte tellement, tellement important. Hérode n'est pas juif, ni par son père, ni par sa mère. Il n'avait rien à faire comme roi. Hérode a eu 10 épouses avec leurs divers enfants. Ils ont été mêlés à des complots contre la vie d'Hérode. Et il est devenu, Hérode, à moitié fou, parce qu'il craignait pour son pouvoir. Et c'est pour ça que quand il a entendu « Où est le roi qui vient de naître ?», il a été complètement pris de folie. Il a fait mettre à mort successivement sa femme Marianne, la première de ce nom, ainsi que ses deux fils, Alexandre et Aristobule. Puis un autre de ses fils, Antipater, 5 jours avant son décès. Voyez la folie d'Hérode, ce qu'il préoccupait. Hérode est un roi cruel et il représente bien Satan qui est menteur et meurtrier dès le commencement. Où est le roi des Juifs? Allez voir et puis moi j'ai aussi envie d'aller l'adorer. Hein, c'est pas tellement adorer hein, qu'il voulait faire. Hein. Vous avez compris. Tu mettras sur toi le roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Je suis revenu sur ce verset parce que quel est le roi que Dieu a choisi pour moi? Quel est le roi? Jésus, hein? J'espère que c'est Jésus, notre roi, ce matin. Combien de fois ai-je laissé régner des étrangers dans mon cœur à la place de Jésus? Peut-être encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu peux dire, non, c'est fini. Jésus reprend la place de roi dans ma vie. Si c'est le cas ce matin, eh bien, c'est pas trop tard. On peut toujours réinstaller Jésus sur le trône. Les étrangers, très vite fait, des étrangers peuvent s'incruster dans nos vies. Pourquoi nous faut-il Jésus? Parce que sa naissance confirme les Écritures. C'est lui qui a été annoncé d'avance. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent au temps ancien, au jour de l'éternité. C'est Jésus qui règle la question du péché. C'est primordial. C'est primordial. Luc 1, verset 71 nous dit « Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. » C'est lui, le roi. Jean 1, verset 29, le lendemain, c'est Jean-Baptiste qui parle, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Imaginez le remue-ménage que ça a dû faire quand Jean-Baptiste a prononcé cette phrase. Parce que réaliser que jusqu'à présent, c'était toujours le rituel des sacrifices qui était apporté pour couvrir le péché, pas pour l'effacer. Le sang des animaux couvrait le péché, il ne l'effaçait nullement. Et quand Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau qui enlève les amis », après le sacrifice de Jésus, plus besoin de sacrifice. Et Hébreu nous le rappelle, c'est extraordinaire. Jésus est la véritable nourriture pour nos âmes. Jésus est né à Bethléem, qui signifie, vous savez ce que ça veut dire, Bethléem? Maison du pain. C'est lui le pain de vie. C'est lui le pain de vie. Jésus leur dit, Jean 6, 35, Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est des mots. Le mot jamais et toujours, j'essaye de les contrôler quand je les prononce. Parce que dans ma bouche, ça sonne faux. Mais quand c'est Jésus qui le dit, jamais faim et jamais soif, tu peux avoir 100% confiance, c'est vrai. Vous comprenez ce matin qui il est ? Celui qui me donne une pleine satisfaction dans ma vie. Cinquième point, les mages se dépouillent. Ils offrent aux pieds de Jésus de l'or, de l'encens, de la myrrhe qu'ils ont apporté de leur lointain Orient. Eux, les sages, les nobles, les grands, se courbent dans la poussière et adorent l'enfant. Quelle scène d'abaissement et quelle fidélité chez ces hommes. Question, sommes-nous prêts à nous dépouiller de ce que nous avons de plus précieux pour Jésus ? Est-ce que nous avons tout donné à Jésus ? Si vous relisez le prophète Malachie, il n'est pas long, il n'y a que 4 chapitres. Et le problème dans Malachie, c'est que le peuple, il est dit au verset 2 du chapitre 1, « Je vous ai aimé, dit l'Éternel. » Et vous dites, « En quoi nous as-tu aimé ?» Ou dans une autre formule, une autre traduction dit, « Prouve-nous que tu nous as aimés. » Vous imaginez Malachie, dernier prophète ? On pourrait se dire, mais le peuple, il a peut-être compris le message maintenant depuis le temps que Dieu s'est occupé d'eux depuis la sortie du pays d'Égypte, de l'esclavage. Arrivé à Malachie, dernier prophète, voilà ce qu'ils disent. En quoi nous as-tu aimés ? Prouve-nous que tu nous aimes. Et dans Malachie, on a amené à l'Éternel tous les animaux estropiés, boiteux, tout ce que le gouverneur même n'aurait pas pris, nous est-il dit dans le texte. Et l'Éternel leur dit, mais vous croyez que c'est comme ça qu'on peut venir à moi ? Nous sommes si souvent des calculateurs, si souvent. La seule motivation que l'Éternel a, c'est l'amour. Et moi, je me suis dit, quand ils font cette réflexion dans Malachie, je me suis dit maintenant, Dieu aurait pu dire, les gars, c'est fini. J'ai fait le maximum que je pouvais, mais non. 400 ans plus tard, Jean-Baptiste arrive et il va préparer le chemin du Seigneur. Moi, je trouve l'amour de Dieu, c'est extraordinaire. Il ne s'arrête pas à ce que nous sommes, à nos échecs, à nos erreurs, à tout ça. Il continue à nous aimer. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est fantastique. Moi, ça me touche, un tel amour. Dans le livre, dans ce livre de Malachie, les sacrificateurs et le peuple déshonorent Dieu en fraudant dans leurs offrandes. La loi de Dieu est bafouée, mariage avec des femmes païennes, la répudiation des femmes légitimes est là, et l'infidélité. Et c'est dans cette situation que Malachie va annoncer le remède dans Malachie 3, verset 1, il dit « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'Alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel, des armées. » On l'a répété ce matin dans l'intro, Il vient. Bien sûr qu'il est déjà venu. Mais est-ce qu'il règne vraiment sur mon cœur? Nos critères, nos repères doivent rester la Bible, sa parole. Sinon, le problème qu'il va y avoir, on le trouve dans Malachie 2,17, où il est dit, « Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. » Et vous dites, « En quoi l'avons-nous fatigué ?» C'est en disant, « Quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. » Et c'est en lui qu'il prend plaisir. Ou bien, où est le Dieu de la justice? Des paroles incroyables. Conclusion. Ces divers dépouillements qu'on a vus exposent deux catégories de gens et d'attitudes distinctes et opposées face à cette naissance de Jésus. Premièrement, les dépouillements que produisent l'amour et l'obéissance à Dieu et à sa parole, on l'a vu en ce qui concerne Marie, Joseph, les mages. Et puis deuxièmement, les dépouillements que produisent la haine, celui qui ne veut pas obéir à la parole de Dieu, et même pour nous en tant que chrétiens. C'est important de ne pas dire « Oh, c'est tous les autres, moi, j'ai l'étiquette ménonite, attention hein. » Vous vous rappelez Jean-Baptiste quand il a prêché et que les Juifs, quand Jean-Baptiste a dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Les religions ont dit « Nous avons Abraham pour père, regarde le drapeau, c'est le meilleur, le père de la foi, tu t'imagines ?» C'est un laisser-passer direct pour le ciel. Mais Jean-Baptiste a dit « Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne prétendez pas en vous-même avoir Abraham pour père. » En fait, il voulait juste échapper au jugement qui allait venir. Mais il voulait continuer à vivre dans le péché comme il vivait. Ça, c'est une bonne question pour nous. Est-ce que nous haïssons vraiment le péché ? Ou juste les conséquences du péché? C'est une bonne question, hein? Et c'est ce qui va perturber nos vies chrétiennes. C'est le péché. Nous devons le reconnaître. C'est un défi pour nous. Et il faut rester accroché au Seigneur. Bethléem se dépouille de tous les enfants de 0 à 2 ans, après ce massacre qu'ordonne Hérode. Les mages nous montrent aussi une vérité essentielle. Ils sont arrivés près de Jésus, ils l'ont rencontré, Matthieu 2, verset 12. Je vous relis ce verset, il est très important. « Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. » On a dans ce verset un aspect de la conversion. Quand on a rencontré Jésus, on ne peut plus retourner vers Hérode. Je vous l'ai dit, c'est une image de Satan. On ne peut plus retourner vers Hérode. Je ne peux plus vivre comme avant. Mes objectifs ont changé dans ma vie lorsque j'ai rencontré Jésus. Mes compagnies sont différentes. Mon programme de vie va changer. S'il ne change pas dans nos vies, notre programme, je dois me poser la question, est-ce que Jésus est vraiment le roi? De Corinthiens 5, 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, qu'est-ce qu'il est? Une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est tellement beau. C'est un verset qu'on a tellement l'habitude, on connaît par cœur. Mais est-ce que nous réalisons ce que ça veut dire pour nos vies personnelles? L'Épître aux Colossiens nous dit, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il nous a sortis des ténèbres, il nous a amenés vers la lumière. Jésus, en venant dans le monde, je suis la lumière du monde. Je suis cette lumière. Question, qui est le roi dans ma vie ? Jésus ou un étranger ? C'est tellement important d'y répondre. Les dépouillements voulus et venus par Dieu sont générateurs de réjouissance et de joie. Noël prend alors tout son sens quand Jésus prend sa place de roi dans nos vies. C'est ça Noël. C'est la place du roi dans ma vie. Est-ce qu'il est à sa place dans ma vie ? Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta venue. Merci parce que tu n'as pas regardé à toi-même pour quitter ce ciel de gloire, une félicité que nous ne pouvons même pas imaginer ce matin. Mais tu as renoncé à tout pour venir me sauver. Seigneur, tu es vraiment le roi qui est digne de régner sur toute ma vie. Seigneur, pardon qu'à chaque fois que je te désobéis, je t'enlève du trône de ma vie. Seigneur, merci parce que nous allons fêter Noël, nous sommes dans cette période propice pour annoncer que tu es venu non pas pour rester ce petit bébé de la crèche, mais pour aller jusqu'à Golgotha, jusqu'à la croix, où tu as offert volontairement ta vie. Tu as dit « on ne me prend pas ma vie ». Ce n'était pas une erreur judiciaire, la croix, mais je donne ma vie pour mes brebis. Seigneur, merci parce que tu es resté cloué sur la croix. Merci parce que ce ne sont pas les clous qui t'ont retenu sur la croix. C'est l'amour que tu as pour moi, pour chacun d'entre nous ce matin. Seigneur, merci parce que tu continues à faire ton œuvre dans nos vies. Nous avons besoin que tu continues à régner, à étendre ton règne dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, merci pour la joie ce matin de pouvoir être dans ta présence avec mes frères et sœurs. Merci que tu les bénis, chacun, chacune, que tu leur fais du bien, que tu leur montres, que tu les conduises et que tu leur montres que tu es le bon berger, le meilleur des bergers que nous pouvons avoir dans cette vie terrestre et dans l'éternité avec toi, le meilleur des rois. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a droit à tous les trônes dans ma vie. Seigneur, merci pour le bonheur de te connaître et de pouvoir te servir jour après jour en dépendant de toi. Amen.